Lizzie présente Dans les bois de Harlan Coben, lu par Alexandre Donders. Celui-ci est pour Alec Coben, Thomas Bradbeer, Annie van der Heijder, les trois bonheurs que j'ai la chance d'appeler mes filleules. Je revois mon père avec sa pelle. Son visage est baigné de larmes. Un horrible sanglot guttural monte de ses poumons et s'échappe de ses lèvres. Il lève la pelle et attaque le sol. Elle s'enfonce dans la terre comme dans de la chair humide. J'ai 18 ans. Et c'est le souvenir le plus vif que j'ai de mon père dans ses bois avec sa pelle. Il ne sait pas que je l'observe. Caché derrière un arbre, je le regarde creuser. Il le fait avec rage, comme s'il en voulait à la terre, comme s'il cherchait à se venger. Jamais encore je n'avais vu mon père pleurer. Ni à la mort de son propre père, ni après que ma mère est partie en nous abandonnant, ni même quand il a appris la nouvelle pour ma sœur Camille. Mais là, il pleure. Il pleure sans retenue. Les larmes ruissellent en cascade sur son visage. Les sanglots résonnent sous les arbres. C'est la première fois que je l'espionne de la sorte. La plupart des samedis, il fait mine d'aller à la pêche. Ça, je n'y ai jamais vraiment cru. Au fond de moi, je devais savoir que ce lieu terrible, était sa destination secrète. Car quelquefois, c'est aussi la mienne. Debout derrière mon arbre, je le regarde faire. Ça m'arrivera encore 8 fois en tout. Jamais je ne l'interromps. Je ne me montre pas. Je pense qu'il ne se doute pas de ma présence. J'en suis sûr même. Et puis un jour, en se dirigeant vers sa voiture, mon père me regarde, l'œil sec, et me dit « Pas aujourd'hui, Paul. Aujourd'hui, j'irai seul. » Et il part. C'est la dernière fois qu'il se rend dans les bois. Sur son lit de mort, 18 ans plus tard, mon père me prend la main. Il est bourré de médicaments. Ses mains sont rêches et calleuses. Il s'en est servi toute sa vie, même à l'époque des vaches grasses dans un pays qui n'existe plus. Mon père a un physique de dur à cuire, une peau tannée et épaisse comme une carapace de tortue. La douleur est atroce, mais il n'a pas versé une seule larme. Il se contente de fermer les yeux pour mieux l'évacuer. Avec lui, je me sens en sécurité, même maintenant, à l'âge adulte, alors que je suis à mon tour père de famille. Il y a 3 mois, quand il en avait encore la force, on est allé dans un bar. Une bagarre a éclaté. Mon père s'est placé devant moi, prêt à affronter quiconque me frôlerait de trop près. Aujourd'hui encore, voilà le genre d'homme que c'est. Je le regarde, couché dans son lit. Je repense au bois, à cette terre qu'il fouillait sans relâche jusqu'au jour où ma mère est partie. Paul ? Tout à coup, il a l'air agité. Je voudrais le supplier de ne pas mourir, mais je me retiens. J'ai déjà vécu cette situation. Ça n'aide personne. Tout va bien, papa, lui dis-je. Ça va aller. Loin de se calmer, il tente de se redresser. Je veux l'aider, il me repousse. Il me regarde au fond des yeux. J'ai l'impression qu'il est lucide. Ou alors, c'est ce qu'on a tous envie de croire à l'instant ultime. Un dernier semblant de réconfort. Une larme solitaire perle sous ses paupières. Je la regarde glisser lentement sur sa joue. « Paul, » dit mon père avec son fort accent russe, « il faut absolument qu'on la retrouve. »« On la retrouvera, papa. » Il scrute à nouveau mon visage. Je hoche la tête, histoire de le rassurer. Mais il ne cherche pas à être rassuré. Pour la première fois, je crois qu'il veut savoir si je me sens coupable.
« Tu étais au courant ?»
me demande-t-il d'une voix à peine audible. Je tremble de la tête aux pieds, mais je ne scie pas, je ne baisse pas les yeux. J'ignore ce qu'il voit, ce qu'il s'imagine. Et je ne le saurai jamais. Car là-dessus, mon père ferme les yeux et meurt. Chapitre 1. 3 mois plus tard. Debout dans le gymnase d'une école élémentaire, je regardais ma fille, Cara, 6 ans, marcher avec appréhension sur une poutre qui se dressait peut-être à 10 centimètres au-dessus du sol, sans me douter que, dans moins d'une heure, j'allais me trouver face au cadavre d'un homme brutalement assassiné. Ce qui n'avait rien de choquant en soi. J'ai appris, au fil des années, de la pire manière qui soit, que la cloison entre la vie et la mort, entre la beauté ineffable et la laideur sans nom, entre le plus idyllique des paysages et le plus effroyable carnage, est mince. Une seconde suffit à la faire tomber. Vous êtes là, en pleine béatitude, dans ce temple de l'innocence qu'est le gymnase d'une école élémentaire. Votre petite fille virevolte, sa voix chavire, elle ferme les yeux. Vous revoyez le visage de sa mère, paupières closes, le sourire aux lèvres, et vous vous rappelez la minceur de la cloison.
Coupe !
C'était Greta, ma belle-sœur. Je me suis retourné. Elle me regardait d'un air soucieux, comme à son habitude. J'y ai répondu d'un sourire.
« À quoi penses-tu »
a-t-elle chuchoté. Elle savait. Néanmoins, j'ai menti.
« Au caméscope. Pardon ?»
Tous les sièges pliants étaient occupés par les parents. Bras croisés, j'étais adossé au mur de béton tapissé de posters, règlements et maximes cucu du style « Ne me dites pas que le ciel, c'est la limite quand il y a des traces de pas sur la lune. » C'est là qu'on avait également entreposé les tables pliantes. Je sentais leur contact froid et métallique dans mon dos. Contrairement à nous, les gymnases scolaires ne vieillissent guère. Ils rapetissent, c'est tout. D'un geste, j'ai désigné les parents.
Il y a plus de caméscopes là-dedans que de gosses.
Greta a hoché la tête.
Et les parents, ils filment tout. Tout, de A à Z. Qu'est-ce qu'ils en font, hein? Qui va regarder ça en entier? Pas toi? Je préférerais encore accoucher.
Ma remarque l'a fait sourire.
Ça m'étonnerait. Oui, bon, peut-être pas. Mais on a tous grandi avec MTV, non? La succession des plans, la multiplication des angles. Alors que filmer comme ça, sans aucune mise en scène, pour infliger à un ami ou à un membre de la famille qui ne se doute de rien...
La porte s'est ouverte. Au moment même où ils sont entrés dans le gymnase, j'ai deviné que ces deux-là étaient des flics. Même si je ne les fréquentais pas assidûment, j'occupe le poste de procureur du comté d'Essex, qui comprend la ville réputée violente de Newark, je l'aurais su quand même.
Et vous aussi, probablement, ne serait-ce que grâce à la télé.
Car parfois, elles tombent juste. Leur tenue vestimentaire, par exemple. Un père de famille dans la banlieue huppée de Ridgewood ne s'habillera jamais de cette façon-là. On ne se met pas en costard pour aller voir son môme faire des galipettes au gymnase. On enfile un pantalon en velours ou un jean avec un pull-col en V par-dessus un t-shirt. Or, ces gars-là portaient des costumes mal coupés, d'une couleur marronasse qui m'a fait penser à des copeaux de bois après un orage. Ils ne souriaient pas. Leurs yeux ont balayé la salle. Je connaissais la plupart des flics de la région, mais ces deux-là, je ne les avais jamais vus. Ça m'a perturbé. Ils ne me disaient rien qui vaille. Bien qu'innocent, évidemment, j'ai senti mon estomac se nouer.
Ça ne vous arrive jamais.
Vous croisez un flic et du coup vous prenez l'air le plus dégagé possible de peur qu'il ne vous soupçonne d'avoir commis l'inimaginable.